Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le pape François vient d'atterrir à Bagdad, en Irak. Visite historique, notre envoyé spécial en ligne dans un instant. La vaccination accélérée en France, promet le gouvernement. Nous verrons comment, combien, qui sera vacciné à la fin mars, avant les jours meilleurs peut-être du mois d'avril. Désormais, les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont autorisés à vacciner. L'Italie bloque l'exportation de doses AstraZeneca vers l'Australie, une première en Europe. Dans le même temps, deux pays s'émancipent, le Danemark et l'Autriche forment une alliance avec Israël pour développer des vaccins. Dans le journal, Jean Castex et Gérald Darmanin à Beauvais, secoués par deux nuits d'échauffourée et l'arrivée ce matin du dernier du Vendée Globe, un Finlandais de 58 ans qui n'est pas marin mais pilote de ligne et qui a bouclé son tour du monde en 116 jours. Invité d'Europe Midi, le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, qui signe aux arènes la traversée, un périple à travers l'immense forêt congolaise, sur les traces des génocidaires Hutus qui ont fui le Rwanda il y a 25 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une visite événement auprès d'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, anéantie par les conflits et les persécutions, avec une main tendue aux musulmans chiites, dans un pays meurtri où jamais aucun chef de l'Église catholique ne s'était rendu. Le pape François vient tout juste d'atterrir à Bagdad en Irak où vous vous trouvez, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, avec un pape François pile à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad. François avec un masque qu'il a ôté un court instant pour saluer le premier ministre irakien au pied de l'avion. Deux hommes très souriants, complices, qui s'arrêtent en chemin pour échanger sur le tapis rouge et entouré par la haie d'honneur de la garde nationale, casque à plumes blanc sur la tête. La discussion se poursuit en ce moment dans le salon d'honneur. Des images sont diffusées, mais la conversation reste privée. Ramon, jeune charpentier qui a préparé le fauteuil du pape, se réjouit de cette arrivée.
Je n'arrive pas à croire ce qui arrive. Je ne peux même pas décrire mon sentiment. Je suis revenu vivre ici pour reconstruire ce qui avait été brûlé par Daesh. Le fait que le pape vienne, envoie ce message, cet endroit est sûr, vous pouvez revenir.
Le pape vient s'adresser aux chrétiens, évidemment, pour conforter dans leur choix ceux qui sont revenus s'installer ici. François, en pèlerin de paix, dit-il, pour s'adresser aussi aux musulmans. L'un des temps forts de sa visite, ce sera sa rencontre avec l'ayatollah Ali Sistani, demain plus haute autorité chiite. Un signe d'unité pour cette population très diverse en Irak. Ce sera dans la ville de Najaf, considéré comme le Vatican de cette branche de l'islam.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Et en direct, merci. En France, le gouvernement fait donc le pari d'une vaccination de plus en plus rapide pour contenir l'épidémie et échapper au reconfinement. Désormais, les pharmaciens, infirmiers, sages-femmes sont autorisés à vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent, décret paru ce matin au journal officiel. 135 000 doses supplémentaires iront ce week-end aux 23 départements les plus touchés, 12 000 à Nice, 11 000 à Paris. Et pour la suite, que nous dit le calendrier vaccinal des prochaines semaines? Anne Le Gall, quelle est l'ampleur du coup d'accélérateur promis par le gouvernement?
Alors l'objectif, c'est une première dose pour 10 millions de Français d'ici le 15 avril. Cela fait un peu plus d'un million d'injections par semaine. Cette accélération s'explique par le rythme des livraisons, puisqu'en mars-avril, nous devrions recevoir 22 millions de doses de vaccins, soit trois fois plus qu'en janvier-février. Ensuite, pour le mois de mai, le gouvernement vise 20 millions de premières doses. Cela veut dire que si vous avez plus de 50 ans, que vous faites partie des 60% de volontaires, vous devriez bénéficier de la première injection, donc d'ici la fin du mois de mai. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes, soit deux tiers des adultes consentants, devraient pouvoir être vaccinés.
Et autre enjeu stratégique, Anne, la vaccination des soignants, toujours faible, beaucoup trop faible.
Oui, aujourd'hui, on est entre 30 et 40% de vaccination chez les soignants. C'est mieux que pour la vaccination anti-grippe, mais c'est loin d'être suffisant pour éviter les foyers infectieux. 27 000 Français ont attrapé le virus à l'hôpital. Le Covid-19 est devenu la première maladie nosocomiale. Olivier Véran incite donc fortement les soignants à se faire vacciner. Pas d'obligation à ce stade, mais le ministre de la Santé ne l'exclut pas si cela devient nécessaire.
Cette course au vaccin passe aussi par les épreuves de force avec les fabricants. AstraZeneca notamment, qui fait subir à l'Europe des retards d'approvisionnement. Hier, une première, l'Italie a bloqué l'exportation de 250 000 doses d'AstraZeneca destinées à l'Australie. La ministre française de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'en est expliquée ce matin sur Europe 1.
Nous utilisons tous les leviers. Nous, vous savez que nous avons lancé une inspection en janvier du site de production belge et que nous avons ensuite, sur cette base-là, lancé des inspections dans tous les sites d'enflaconnage qui dépendait de ce site belge. Nous avons établi qu'il n'y avait pas eu de livraison en dehors de l'Europe depuis ce site belge. Nous avons établi qu'il y avait des difficultés de production depuis ce site belge. Mais dans le contrat que nous avons avec AstraZeneca, nous ne sommes pas exclusivement dépendants de ce site. Et donc, rien n'interdit AstraZeneca de livrer depuis d'autres sites. Et c'est pour ça que l'Italie a bien fait de bloquer ses livraisons.
Agnès Pannier-Runacher avec Sonia Mabrouk. L'Europe qui surveille ses frontières, mais l'Europe qui semble se déliter dans cette course au vaccin, avec deux pays qui s'émancipent. C'est l'image de la soirée, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, la première ministre Mette Frederiks, accueilli à Jérusalem par le Premier ministre israélien Netanyahou pour l'annonce d'une alliance entre les trois pays en vue de développer de nouveaux vaccins. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, c'est la solidarité européenne qui est mise à mal?
C'est clair que l'image des trois dirigeants côte à côte ne fait pas de bien à cette solidarité déjà fragilisée par les achats de vaccins russes et chinois à l'est de l'Europe. En termes de perception pour les opinions publiques, c'est ravageur. Pourtant, la Commission européenne ne critique pas officiellement la démarche de l'Autriche et du Danemark. Elle estime que toutes les énergies sont bonnes à prendre. Mais côté français, on est frontal dans les critiques. Sur notre antenne, la ministre de l'Industrie a rappelé que sans le cadre européen de vaccins, le Danemark, 6 millions d'habitants, et l'Autriche, 9 millions, n'aurait sans doute pas accès au vaccin aujourd'hui. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, pointe lui que l'accord avec Israël est très flou. On parle d'un fonds de recherche-développement sans objectif chiffré ou dans le temps. Il y a beaucoup de politique dans ce voyage du chancelier autrichien et de la première ministre danoise. Ils veulent calmer leurs opinions publiques, soupire un diplomate. Car il faut rappeler une chose, Israël ne produit aucun vaccin. Certes, sa campagne de vaccination est un succès, mais c'est grâce au vaccin BioNTech Pfizer conçu en Europe et que les Israéliens ont acheté et importé.
Isabelle Horry en direct depuis Bruxelles.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, Beauvais secoué par deux nuits d'échauffourée reçoit la visite du Premier ministre et l'arrivée du dernier du Vendée Globe.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À Marseille, un homme armé d'un couteau a été arrêté aux abords d'une école juive. C'est un parent d'élève qui avait repéré ce suspect âgé de 60 ans à l'arrêt dans une voiture. Quand l'agent de sécurité de l'école s'est approché, l'homme est sorti avec un couteau de cuisine à la main. Il a pu être maîtrisé. Il est maintenant en garde à vue, pas plus d'informations pour l'instant. C'est Guillaume Bier qui vient de m'informer de tout cela, le chef du service police-justice d'Europe 1. À Beauvais, dans l'Oise, déplacement ce matin de Jean Castex et Gérald Darmanin à la rencontre des forces de sécurité au surlendemain de deux jours de violences urbaines dans un quartier de la ville. Hélène Terzian, vous les avez suivis.
Effectivement, les ministres Jean Castex et Gérald Darmanin ont tenu à se rendre de façon improvisée dans l'un des quartiers émaillés par les violences urbaines pour montrer que la sécurité reste au cœur de leurs préoccupations. Ils sont accompagnés de la maire de Beauvais, Caroline Cailleux.
C'est un peu dur à Beauvais en ce moment.
C'est agité.
C'est quand même un peu inhabituel, heureusement, mais bon, quand on touche à la drogue, voilà, c'est...
Voilà la police nationale.
Les ministres ont salué les forces de l'ordre, témoigné de leur solidarité, notamment à l'égard de deux des trois policiers blessés lors des violences.
Alors, racontez-moi un peu ce qui s'est passé, monsieur. On a vu quelques images, effectivement édifiantes.
Des jets de mortier, puis des jets de...
Très violents et vraiment des gens très très déterminés, qui n'ont pas hésité à acheter des pierres, des boules de pétanque et autres.
Et là, comment allez-vous?
Ben ça va, plus motivé après les événements passés.
L'exécutif en première ligne sur le thème de la sécurité, mais très vite rattrapé par la crise. Les ministres sont interpellés par une habitante qui dit ne pas bénéficier des aides de l'État.
C'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, c'est qu'on perd tous les mois 10 000 euros.
Depuis un an.
Pour nous, c'est terrible. Alors, heureusement qu'on avait une bonne trésorerie pour tenir jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on ne peut plus. Donc sans PGE et sans les charges fixes qui sont prises en charge, on fait comment?
Les ministres qui ont toutefois dû poursuivre leur déplacement autour d'une table ronde sur le thème de la sécurité, 10 policiers supplémentaires viendront s'ajouter aux effectifs déjà renforcés par l'État. Une demande du président de la région, Xavier Bertrand, présent et assez en retrait. dans la salle.
Hélène Terzian depuis Beauvais. Les sports avec la fin du Vendée Globe, la vraie fin de l'édition 2021, ce matin, avec l'arrivée au Sable d'Olonne, du dernier de l'épreuve, 36 jours après le vainqueur et après 116 jours de navigation autour du monde. C'est un Finlandais de 58 ans, Harri Uusela, personnage atypique, Corinne Boulou.
Oui, Harri Uusela n'est pas un navigateur professionnel, ce qui donne encore plus de dimension à son exploit. C'est un pilote de ligne, habituellement aux commandes d'Airbus A350 pour la compagnie Finnair. Mais cet ingénieur aéronautique a cette passion de la mer chevillée au corps et au cœur depuis sa première traversée de l'Atlantique il y a une vingtaine d'années. Alors à 58 ans, c'est vrai, le capitaine Uusela a changé de casquette. Il a acheté son monocoque sur ses propres deniers et il s'est lancé dans l'aventure ce matin. Peu avant de franchir la ligne d'arrivée, dans une dernière vidéo envoyée à l'organisation, le Finlandais était d'ailleurs ému aux larmes.
Quel jour merveilleux. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est sûr. Dans le top 3 au moins. Enfin, je vais tellement apprécier ce moment. C'est vraiment incroyable.
Alors Harri Uusela a parfois trouvé le temps long à bord, mais il est resté toujours positif, heureux sur l'eau, ému aussi. C'est sans doute celui qui a envoyé le plus de photos à l'organisation, notamment de coucher de soleil, qu'il a partagé tout au long de son périple de 116 jours. Et ce matin, celui qui est devenu une attraction en Finlande a été accueilli comme il se doit par les Sablais présents pour saluer le 25e et dernier concurrent d'une édition record en tout point.
Merci à vous Corinne Boulou. Le temps, Anissa, a dit une petite amélioration pour cet après-midi.
Oui, et c'est par le nord, Patrick, que l'amélioration arrive avec cet après-midi. De belles éclaircies en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France et en région parisienne. Là, le soleil va réussir à percer ce ciel gris que nous avons depuis deux jours. Le soleil sera bien plus généreux également sur la moitié sud. Attention tout de même, sur la moitié nord, nous avons la bise, ce vent de nord-est qui souffle et qui va nettement rafraîchir l'atmosphère. C'est-à-dire que les températures baissent et en plus de ça, la sensation de froid, elle est accentuée par cette bise. Dans le sud, c'est le Mistral qui se lève, là aussi, un vent du nord qui vient de temps en temps rafraîchir l'atmosphère. Alors notez que de l'Alsace jusqu'aux Alpes, sur le Grand Est, en fait, c'est là que nous avons le plus mauvais temps avec encore des nuages, de la pluie et puis surtout des chutes de neige à partir de 600 mètres d'altitude du côté des Vosges. Les températures, 6 degrés à Dunkerque, c'est frais, 8 à Paris et Saint-Etienne, 9 pour Clermont-Ferrand, 12 à Biarritz, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Montpellier et 17 à Nîmes. Ça va encore baisser ce week-end, mais le soleil est de retour, surtout sur la moitié nord.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.